Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Fred, il n'y a pas longtemps, tu as donné la vie.
Pas sûr que ma blonde serait d'accord avec cette affirmation. C'est elle qui a fait la plupart du travail, mais oui, Germain. Je suis maintenant papa et je sais pas s'il y a des parents là qui sont auditeurs de podcasts de char, mais quand on a un jeune enfant, il y a une espèce d'outil assez cool qui s'appelle un bumbo. Une espèce de truc en espèce de foam dur sur lequel tu peux asseoir ton enfant. Puis même quand la tête se tient un peu difficilement, là, c'est comme les...
Est-ce qu'on est au podcast Maman Parfaite?
Podcast de parents, parents futés.
Ah, d'accord.
Non, mais bref, c'est une espèce de truc dans lequel on
Est-ce qu'on peut te qualifier de père ordinaire?
Ouais, j'irai pas là. Bref, Germain, dans les premiers mois de vie de ma fille, il y a ce truc-là qu'on appelait un bumbo qu'on utilisait quotidiennement. Et à chaque motadite fois qu'on l'utilisait, ça me mettait la même toune dans la tête. Et je vais te la chanter, Germain, parce qu'on est des performers, toi et moi.
Vas-y.
Ça va comme suit.
Mais je ne connais pas bumbo, alors je ne pense pas reconnaître la dite chanson.
Bumbo, bumbo, petite automobile, Bille, tu parais si fragile, Gilles.
C'est entraînant comme...
La plus belle des autos. Puis là, ça passe sur un rap. Quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Tu aspires tes mécaniques. Et tu deviens... Il y a sur le drum aussi. Boum boum magique. T'as jamais écouté ça, hein?
Mais premièrement, prenez note qu'il n'a pas les paroles sous les yeux.
Je suis à jeun aussi.
Complètement à jeun. Il est 9h15 un mardi et il n'a pas les paroles sous les yeux. Il connaît ça par cœur.
Absolument.
Je ne sais pas quoi en penser.
Absolument, Germain. C'est l'émission Bumbo, un dessin animé lancé en 1985 et qui a assurément marqué ma jeunesse. Ça passait à Canal Famille à l'époque, Germain. Et ça nous a donné l'idée ensemble de parler des émissions de télé axée sur l'automobile qui ont marqué notre jeunesse parce que Bumbo, ça mettait en vedette une auto. Je te dirais
une
que
auto c'est... un peu difforme.
Ouais, ça peut ressembler. Il y a des roues puis un volant. Mais c'est pas mal mon premier contact avec l'automobile. Peut-être ce qui m'a rendu si passionné envers l'automobile. Puis il y a d'autres émissions, évidemment, qui ont suivi par la suite. Puis on va... Faire un petit palmarès des émissions qui nous ont marqué, toi et moi, pendant notre jeunesse. Faut dire qu'on a quelques années de différence, fait qu'il va peut-être y avoir des distinctions.
Et Bumbo n'est pas une voiture beige, alors visiblement, tu as cultivé cette passion pour l'automobile beige un petit peu plus tard.
Un petit peu plus tard, parce que je me vois pas conduire une voiture jaune avec des roues bleues, je t'avoue. C'est un petit peu trop excentrique.
On part! J'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour de Bumbo.
Déjà?
Et qu'on n'a jamais consacré autant de temps médiatique à cette émission qui est vite tombée dans l'oubli, j'ai l'impression.
C'est pas le seul qui aime ça, hein, sur YouTube, le générique. 1,1 million d'écoutes.
Tout ça me paraît franchement exagéré. Je n'y crois pas un seul instant. Mais il faut dire, hein, même si on est, je crois, de la même génération, quelques minces années nous séparent et nous n'avons pas écouté les mêmes émissions jeunesse. En fait, j'étais très peu fan d'émissions jeunesse. Dès que j'ai pu prendre le contrôle de la télécommande, je regardais les émissions à Canal D, à Historia.
T'étais pas un passe-partout, toi. Attends, t'es trop jeune.
Trop jeune pour passe-partout.
Trop jeune. Voilà. Même moi, je suis limite. Là.
Ouais, trop jeune.
Pour le bien de nos auditeurs, je pense qu'on pourrait mentionner nos années de naissance. T'es-tu à l'aise avec ça?
1922, en ce qui me concerne.
Ça, c'est l'année mentale, mais l'année physique...
1995,
et pour ma part, 1989, ce qui fait en sorte qu'on a 6 ans d'écart environ. C'est pas beaucoup quand on est rendu des adultes, mais à l'enfance, évidemment, ouais. C'est quand même un monde de différence, ce qui fait en sorte que t'as pas eu le bonheur, Germain, de connaître Bumbo quand t'étais jeune.
Non, mais lorsque j'ai pu prendre contrôle de la télécommande du téléviseur familial, j'ai pu découvrir une émission qui s'appelait... Monster Garage.
Oh!
Est-ce que tu te rappelles de cette émission-là?
Non. Monster Garage.
Oui, c'était avec le très américain Jesse James.
C'est le gars avec une grosse moustache?
En fait, ils ont tous une pilosité un peu douteuse et une grande...
Oh, wow, réalisateur qui regarde des photos, là, ça me rappelle...
Ça fait très début 2000. Il y avait effectivement un jeu d'une console vidéo, mais comme j'étais très peu porté vers les jeux vidéo, ça ne m'intéressait pas. Alors oui, une pilosité souvent douteuse, des tatous souvent trop nombreux.
C'était quoi le but de l'émission? On modifiait
des
chars?
En fait, ils modifiaient des véhicules pour les utiliser d'une manière inusitée. Je me rappelle très bien, Fred, on avait modifié à Monster Garage une Mini Cooper, voiture qui est arrivée au début des années 2000.
Que tu affectionnes particulièrement.
Ah, tout à fait. Et le véhicule était encore tout jeune à ce moment-là. Et on en avait fait un véhicule à chenilles pour les pentes de ski. Donc, vois-tu, c'était
okay.
un peu éclaté comme ça. Là. L'idée n'était pas juste de mettre des grosses roues chromées et des flammes. Et oui, à chaque émission, on modifiait une voiture. C'était souvent peu réussi, là, mais voilà, c'était...
Est-ce que c'était, parce que là, j'ai pas le choix de rebondir avec Pimp My Ride, là, qui était un peu la même chose.
Est-ce que c'était l'émission de modification
Absolument.
Automobile.
Mais est-ce que c'était la même chose dans le sens où on modifiait des voitures qui appartenaient à des particuliers,
qu'on leur
redonnait les clés à la fin?
Non, on ne récupérait pas des épaves, en fait, on voulait relever un défi.
OK.
Parce qu'effectivement, installer des... Par exemple, je reviens avec cet exemple-là, installer des chenilles sur une Mini Cooper, c'est complètement farfelu et à la fin on testait la machine là.
OK. On allait sur une pente de ski.
Ouais.
OK.
Quand même du gros budget et cette voiture là a été produite en miniature même, tellement elle a passé à l'histoire, la fameuse Mini de Monster Garage.
Est-ce que tu la possèdes?
Bien entendu.
Est-ce qu'elle est dans sa boîte originale?
Bien entendu. Ben voilà, réalisateur qui sort.
Hey, réalisateur est fort sur Google aujourd'hui. Grosse performance. D'après moi, t'es encore sur le café du matin, réalisateur.
Qui dit modification automobile à la télé dit Pimp My Ride ou Pimp Mon Char
ben oui,
à Musique Plus.
Le parallèle est facile à faire. Ça jouait effectivement en français. Ben, en français. C'était en anglais, mais avec des sous-titres, là.
Ben, ou en anglais. Est-ce qu'il y avait juste des sous-titres ou il y avait aussi des voix rajoutées?
Ah, ben là, tu me fais douter. Moi, je suis pas mal certain que j'écoutais ça en anglais avec des sous-titres.
Ah ouais?
Je pense. Peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais ça jouait effectivement à Musique Plus avec X to the Z Exhibit.
Oui, et là, je prendrais, si on était à la caméra, je prendrais une petite pincée de ton chandail.
Oui.
Et je te dirais, you have been officially been pimped. Ou je sais
pas
quoi.
C'était la fin de l'émission où on tirait le bout de chandail. Des fois, il y avait des filles en camisole bretelle, fait que là, ils savaient pas trop quoi faire. Pour les pauvres hommes qui connaîtraient pas Pimp My Ride ou Pimp Mon Char en français, il y avait des applicants, là, c'était dans la région de Los Angeles, des gens qui avaient des voitures un peu déglinguées puis qui appliquaient pour que...
Oh, un peu déglinguées, des sacrés minômes,
ouais, des vidanges.
Oh, c'était...
Il y avait toujours un topo au début où on présentait la voiture dans son état actuel. Et puis là, Exhibit cognait chez les gens là, qui étaient toujours surpris, mais il y avait un micro sur eux. Fouille-moi pourquoi.
Le véhicule était dans un état délabré. Ouais. La situation financière de la personne était compliquée.
C'était toujours compliqué.
C'était toujours dans un quartier défavorisé. T'sais, on en beurrait épais, là.
Ouais.
Et là, c'est comme si Exhibit, c'était Jésus qui arrivait, là, t'sais, pour sauver le monde, là.
Puis qui amenait ça chez sa gang, chez West Coast Customs.
Ouais.
Puis là, il y avait tout le temps quelqu'un, t'sais, axé sur la carrosserie. Là, il y en avait un autre que il faisait juste les sièges.
Oui, le latino qui faisait que les sièges. Il était très doué.
Il était très bon.
Mais c'était probablement le plus talentueux du lot. Et là, si t'avais le malheur de dire que tu aimais, par exemple, le ballon panier, tu étais certain que il allait avoir des décalques de ballons paniers partout sur ta voiture.
Ou bien, t'ouvres le coffre, il y avait un panier de basket qui sortait avec un truc hydraulique.
Ouais, c'était franchement
ridicule.
Exagéré. Si t'avais le malheur de dire que tu avais un poisson rouge quand tu étais petit, tu pouvais être certain qu'on allait installer 42 aquariums dans ton véhicule. Ça n'avait aucun
Quand on
aucun
manquait
bon
d'inspiration,
sens.
On mettait un PlayStation 2 dans la valise des manettes.
Ah oui, parce que c'était l'époque.
Ben oui.
On jouait aux jeux vidéo là, bien installés. debout derrière son auto.
C'était l'époque des chars modifiés, l'époque Fast and Furious. Là, c'était, ça, ça a très mal vieilli. Il y avait déjà, d'ailleurs déjà eu un reportage sur les voitures de Pimp My Ride 5 ans, 10 ans plus tard. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Puis c'était des épaves. Évidemment, il faut les entretenir, là, sinon ça va redevenir des épaves, c'est
mais
sûr.
En fait, c'est, pour moi, c'est exactement le principe de mettre du rouge à lèvres sur un cochon. C'est-à-dire que le véhicule est complètement fini. Ben même si tu lui mets une peinture rose fluo puis des néons verts puis des jantes chromées, ben ça empêche pas que le véhicule est fini et bon pour la scrap. Là.
Et jamais on ne parlait de modifications mécaniques ou très rarement.
Ou pour améliorer la sécurité, ce genre de choses.
C'était esthétique.
Ouais. Donc on est quand même loin de rouler au suivant là où on essaie de remettre en état le véhicule. Là c'était que de faire du tape à l'œil. Je me rappelle d'un épisode avec le jeune homme a une Ford Escort. Déjà là c'est pas évident et le véhicule était tellement magané en fait il avait été comme coupé en deux, il avait été ressoudé. Là, on avait pris le devant de l'une et le derrière de l'autre, puis Exhibit et j'aime ça dire
ça. Il avait pas acheté un autre char.
Ben voilà, c'est ça. C'est une des rares fois où le véhicule était trop fini pour qu'on puisse
légalement
lui installer 42 aquariums à l'intérieur. Donc on s'était procuré un Sion XB.
Ah oui.
Et là on l'avait modifié de fond en comble.
C'était pas mal les balbutiements là de la marque Sion aussi là qui ouais. En fait qui est né en Californie avant d'arriver sur le marché canadien là.
C'était les plus belles années de Sion, avant d'arriver au Canada.
Les vraies boîtes à beurre, là. Tu sais, les vrais XB carrés.
Ouais.
Ah, que de souvenirs avec Pimp Mon Char. Et ça me rappelle aussi, on ramène ça au Québec, Germain, que l'animateur Babu Bernier avait lancé sa version de Pimp Mon Char Québec.
Ah oui.
Hein? Ça, je pense pas que ça avait duré très longtemps, mais il y avait à un moment donné modifié la vanne de Normand Lamour. Je sais pas si t'as connu ça, toi.
Ben Normand Lamour, oui, mais...
tu sais, il chantait le petit pinson. Puis il était tout le temps. Je sais pas
t'as
si t'es déjà allé là.
Aujourd'hui.
Il était tout le temps au Madrid avant qu'il défasse tout, puis que ce soit
le Saint-Hubert Express.
Exact. Le vrai Madrid. Il était tout le temps là, puis tu pouvais aller là, puis il vendait des CD, puis il purifiait
des
ton
cassettes.
Arme. Des cassettes. Non, il y avait des CD. Ouais. J'en avais déjà acheté, oui. Puis il purifiait ton arme. Il faisait une espèce de petites cérémonies là puis
j'ai aucun souvenir
il ouvrait à Jésus là, c'était un monsieur vraiment spécial puis il avait un Ford Aerostar dans lequel il mettait toutes ses patentes puis Babu avait modifié son Ford Aerostar puis après ça ben Normand Lamour avait son Ford Aerostar modifié au stationnement du Madrid.
Je sais pas si je suis à l'aise.
Ben, c'était génial, man. Okay. C'était un grand pas de notre histoire.
J'ai aucun souvenir de cette émission de Babu.
Ah dommage.
Modifier les véhicules.
Ce qui nous ramène, Germain, à notre mère patrie, le Québec.
Toujours.
Il y a quand même eu des émissions automobiles qui m'ont marqué, moi, en tant que jeune homme, sur les réseaux locaux. Puis, j'ai pas le choix de commencer.
Des émissions à trois lettres sur des réseaux à trois lettres.
Non, mais commençons avec la main qui nous nourrit, là, l'émission du Guide de l'auto, qui était présentée à Vox à l'époque, qui est maintenant présentée à TVA. Puis, je pense qu'elle est un petit peu plus excitante.
Une formule complètement différente.
Ouais. À l'époque, c'était davantage, on discutait de l'industrie automobile. Oui. On parle d'un show de chaise. Mais moi, j'adorais ça. Tu sais, apprendre, puis l'Internet était pas ce qui était, fait qu'on apprenait sur les nouveautés de l'industrie, on voyait des essais routiers, c'était animé par Daniel Melançon, il y avait Denis Duquet, Marc Lachapelle était là, Marc Lachapelle qui est encore un collègue à nous. Je me souviens encore quand j'ai vu Denis, quand j'ai vu Marc, ça m'a vraiment marqué, c'était une émission que je manquais très rarement à Vox les week-ends.
Au début, c'était animé par Hugo Saint-Cyr, tu te rappelles?
Non, j'ai pas connu cette...
Ah non?
Non. Moi, c'est avec Daniel que
j'ai écouté. Moi, je l'écoutais, comme on dit en chinois, un early adopter de l'émission du Guide de l'auto. Mais oui, c'était animé par Hugo Saint-Cyr, qui était fan de vieilles voitures, qui avait une vieille Camaro en projet. D'ailleurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Et il y avait un Buick Roadmaster aussi. Okay. Bref, c'était vraiment un gars qui aimait le
qui s'occupait de la portion animation.
Oui,
là,
c'était lui.
Avant Daniel.
C'était lui l'animateur. Et ben il est décédé
quelques années maintenant.
Même plusieurs années. Et Daniel avait pris le flambeau ensuite pour l'animation de cette émission là.
Bref, Hugo Saint-Cyr qui animait le Guide de l'auto. Ouais. Ça, je t'avoue que j'ai pas de souvenirs de ça. Moi, mes souvenirs de jeunesse sont avec Daniel, sont avec Denis, sont avec Marc où on faisait les essais, où on discutait dans les studios de Vox ou de MaTV. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, quand j'avais 17-18 ans, l'émission du Guide avait fait un appel à tous pour venir présenter sa propre voiture.
Ah oui?
Puis j'avais au moins 18 ans parce que
t'avais une voiture,
j'avais donné mon nom pour parler de ma Pontiac Firebird 1976 que j'avais acheté
en garde partagée
avec mon meilleur ami Jean-Philippe Baudry. Puis il m'avait appelé, j'étais allé dans les studios à Montréal pour faire un screen test. Okay. Ensuite, il m'avait rappelé pour me dire que j'étais pris, qu'on allait faire un tournage, puis ensuite, j'ai jamais eu de nouvelles.
Ah, c'est dommage.
C'est jamais arrivé. J'ai jamais su ce qui s'était passé. J'aurais aimé ça. Mais c'est ça. C'est mon expérience avec l'émission du Guide de l'auto sur Vox.
Mon expérience à Vox a été assez petite en ce qui me concerne aussi. À l'âge de 12 ans, j'ai participé à un concours d'épellation à Vox.
Voilà. Un premier pas vers le Guide de l'auto. Hein. Tu te dirigeais tranquillement.
Une chose à la fois.
Subtilement.
J'avais remporté un dictionnaire des synonymes.
T'avais fini combien?
Le deuxième.
Ah, quand même.
Oui,
quand même.
Oh, oui.
On peut pas passer sous silence aussi l'autre émission québécoise qui est connue de tous, là, RPM, qui existe depuis quoi, 20-25 ans.
Pierre Michaud, 25 ans, oui.
Pierre Michaud qui roule sa bosse depuis longtemps, puis je l'écoutais quand j'étais jeune.
Bien sûr.
C'était un immanquable pour moi aussi à TQS, le mouton noir de la télé.
Et mais mon fun, moi, c'était de répondre aux questions des auditeurs, des gens qui appelaient ou qui envoyaient des courriels.
Ouais.
Parce que tu te rappelles, hein, les gens appelaient et pouvaient gagner une trousse Pennzoil.
Ah, ça, je me souviens pas de ça.
Ouais, c'était le prix chaque semaine. C'était un gros commanditaire.
Ça, c'est
de
quand
l'émission.
C'était juste Pierre. Tu sais, c'était avant Antoine et Benoît.
Oui, bien avant ça. Il y a eu José aussi qui était avec lui un bon moment. Mais oui, donc, il recevait les appels en studio. Moi, ce qui me faisait toujours rire, c'était les gens qui appelaient pour dire, ben, je viens d'acheter un Pontiac Torrent, monsieur Michaud, qu'en pensez-vous? Et là, ben, c'est toujours embêtant de dire à quelqu'un.
Quel choix de masse!
Oui, c'est ça. Donc, ça me faisait toujours rire. Mais sinon, je me plaisais beaucoup à tenter de répondre avant l'animateur. Là, j'étais un gamin à ce moment-là. Ouais. Et voilà, je sais que ça impressionnait un peu ma mère. Là. Et on sait qu'impressionner sa mère, c'était vraiment important.
Et c'est difficile.
C'est difficile. Hey,
ma fille fait un pitch, j'étais impressionné.
Wow! T'es bien bonne! Attends qu'à répondre aux questions avant nous autres au Guide de l'auto, tu vas voir.
Au début de ma carrière, j'étais allé dans les studios des gars d'RPM. Il y avait une année où il y avait invité des journalistes de d'autres de médias concurrents. J'avais trouvé ça vraiment cool.
Pour le quiz des connaisseurs.
Le quiz des connaisseurs, ouais. Fait que j'avais fait le quiz avec, c'était Antoine puis Benoît Charrette à l'époque.
Ouais.
C'est pas facile, hein, contre des encyclopédies de la sorte. D'ailleurs, j'avais pas gagné. Mais c'était le fun, d'aller là. Puis, c'était une belle camaraderie. C'était cool.
Oui, j'étais allé aussi. J'étais nerveux comme tu ne peux même pas imaginer. Et je te confirme que j'avais pas gagné non plus face à Benoît et Antoine.
Moi, j'avais eu une bonne réponse.
J'étais encore plus ou moins adolescent à ce moment. Imberbe.
Je me souviens pas que t'étais allé.
Maigrichon. C'était pas très télévisuel, mais visiblement, ça l'avait fait. Mais j'avais rien gagné non plus. Je te le confirme.
Sinon, il y a une émission aussi, Gervais, je pense que on en a déjà parlé, toi et moi, qui portait sur le journalisme automobile, mais c'était un téléroman avec le bon Michel Barrette, Kilomètre-heure.
Juste après Histoire de filles.
Oui, absolument. Puis d'ailleurs, j'écoutais aussi Histoire de filles, c'était mon mardi télé, ça. Il me semble que c'était les mardis.
Oui.
Ouais, hein?
Oui.
Mais Kilomètre, c'était bon.
C'était mon mardi télé.
C'était bon.
On dirait une dame retraitée.
J'avais 13 ans. Bon, on va me faire une petite tisane, moi, écouter Histoire de filles.
Un biscuit Dominique, socialité.
Marjo. Julie.
Judith. Et je trouvais ça très bon à l'époque, mais des fois, ça rejoue à prise 2.
C'est encore bon. Quelques blagues un peu edgy qui ont mal vieilli.
Quelques blagues un peu qu'on pourrait qualifier de « mon oncle », mais en fait, c'est tout le script, c'est les décors. On y croit un peu moins, là, 20 ans plus tard. Ça n'a pas nécessairement bien vieilli. Ça demeure un bon divertissement.
Mais c'était Germain, tu sais, joué par
Gildor
Roy.
Et ses grosses mains.
Et puis, t'avais le personnage de Michel Barrette qui était comme le macho en chef.
Ouais.
Jean-Louis dans le bureau.
C'était mon préféré.
J'en doute pas une seconde.
Qui était comme la victime.
Une espèce de puceau de 40 ans. Là.
Ben non, il sortait avec Titlan.
Ouais, mais permets-moi de douter s'ils ont consommé leur amour.
Tu penses?
Ah, c'était ma théorie du moins.
OK.
Titlan.
Titlan. Ben oui.
Ah, oh, wow, c'était tellement bon. T'avais la bosse un peu autoritaire, ouais. Sonia Vachon.
Sonia Vachon, qui était l'espèce de secrétaire en chef du bureau.
C'était bon. Puis rarement, tu voyais vraiment des autos, dans le fond. Tu sais, c'est un auto, c'est un show qu'on peut qualifier de show de char, là, dans le garage de
dans
Germain.
Dans le garage, qui était toujours là en chienne de travail.
Un classique garage de ruelle.
Oui.
Et le fameux une petite frette Mont-Denis.
Ben oui. Ah, c'était de la bonne télé.
C'était de la très bonne télé.
Sortons du Québec, Fred. Une autre émission.
Oh non, oui. Au Québec adoré.
On y reviendra. Mais le jeudi soir, avec mes parents, on écoutait Over All In, qui était, à mon avis, un de mes coups de cœur d'émission automobile.
Tu sais, c'est quoi la version, le nom français?
Ah, les princes de la modification.
Là, ce que j'ai, c'est les princes du tuning. Hey, mais ça, c'est peut-être français, là. Ils ont peut-être mis modification.
Les princes
du tuning.
Puis là, t'as Over All In. T'sais, ça n'a pas de sens, ce titre-là en français. Mais enfin, la prémisse est intéressante parce qu'effectivement, ça se passait dans le sud des États-Unis où il y avait tout plein de véhicules anciens qui ont survécu, mais qui étaient peut-être en piteux état, qui avaient besoin d'une peinture, d'un rafraîchissement mécanique. Et en fait, souvent, c'était l'épouse du propriétaire ou ses enfants qui inscrivaient le monsieur en question. Je dis le monsieur, là, parce que c'était ça dans 99% des cas. Et la production de l'émission simulait que le véhicule était volé.
OK.
Et pendant ce temps-là, ben le véhicule était amené à l'atelier on retapait le véhicule. C'était modifié par Chip Foose, je sais pas si et lui te faisait un dessin absolument exceptionnel. Moi, c'était un peu ça qui me fascinait. J'avais absolument aucun talent artistique, ce qui est toujours le cas.
Les chars modifiés à la Sima Show, c'est pas ton fort non plus là.
Non, mais il y avait toujours là un 5 minutes dans l'émission, tu voyais Chip Foose à sa table à dessin avec deux, trois crayons marqueurs, un grand carton blanc, puis dessinait ça, là.
Ça, c'était impressionnant.
Et c'était impressionnant. Mais tantôt, on parlait de véhicules comme Pimp My Ride, où c'était des véhicules de piètre qualité. Mais là, le travail réalisé par Foose, c'était quand même d'un niveau un peu plus relevé.
Ouais.
Oui, c'était de la télé. Non, il faisait pas ça en 5 jours comme il le laissait sous-entendre. Mais le résultat était un petit peu plus impressionnant. Finalement, quand le monsieur en question découvrait que non, son véhicule n'avait pas été volé, mais qu'il s'était plutôt retrouvé entre les mains de l'équipe de Chip Foose et que son véhicule avait été restauré à neuf et qu'on lui remettait les clés. C'était quand même un moment intéressant. Et,
fait qu'il y avait le petit aspect surprise avec Pimp My Ride.
Ouais, c'est ça. Fait que le toujours en caméra cachée quand ils allaient simuler le vol du véhicule. Non, c'était intéressant. Mais j'ai écouté ça pendant quelques années. Mais
ça a duré quand même, écoute, 10 saisons. Là, c'est un gros show quand même.
Oui. Avec Jesse Combs, qui est décédé il y a quelques années. On parlait d'Hugo Saint-Cyr, mais visiblement, se retrouver à la tête d'une émission automobile ne porte pas chance. Jesse Combs, qui était la reine de la vitesse et qui est décédé elle aussi il y a quelques années.
En 2019.
Ah, ça fait pas si longtemps.
39 ans seulement.
Il est jeune, hein?
Ouais. Bon, Germain, on va terminer ça, puis il faut parler de l'émission, de toutes les émissions de char, à mon avis, là, la meilleure.
Tu veux revenir sur Bumbo, là?
Bumbo. J'aimerais ça, mais le réalisateur m'a dit que j'avais plus le droit de parler de Bumbo et de chanter pour le reste de l'histoire de podcast de char. Il faut parler de Top Gear, là, le Top Gear de la BBC, à l'époque animé par Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond, le hamster, comment il l'appelait, le Speedy Hamster, je sais pas.
Ah, je
mais écoute, ces gars-là avaient une...
Une complicité à trois qu'on a rarement revue ensuite.
Ah, c'est, écoute, ça se recrée pas, ça,
puis,
là.
Puis, et je veux bien croire qu'on avait un budget exceptionnel pour tourner cette émission-là dans un format d'une heure avec des reportages à l'international.
Ah, ouais.
On louait un circuit, on avait le pilote maison.
T'as beau avoir tout le budget que tu veux, la complicité entre les gars, ça s'achète pas, là.
Et on l'a vu après, quand les trois gars sont partis pour être remplacés, ben... On avait tout de même un budget extraordinaire, mais on n'a jamais su recréer cette énergie, cette complicité entre les trois gars.
Il y a eu des topos absolument fantastiques. Tu sais, le How to Kill a Toyota avec un Toyota Hilux qu'on met au top d'un building, qu'on fait exploser, on l'envoie dans la mer en attendant que la marée haute monte. Tu sais, il y a des trucs que c'est comme... Voyons donc, c'est des pièces d'anthologie.
Puis nous, on négocie sur une base quotidienne avec les services de presse des manufacturiers. Puis on tente de leur vendre des fois des projets peut-être un peu audacieux,
un peu plus
qui impliquent des fois beaucoup de kilomètres ou qui impliquent d'autres véhicules. Puis on est toujours frileux à aller de l'avant parce qu'on est assez conservateur dans notre approche. Mais là, j'imagine Jeremy Clarkson, ou en fait son équipe de 75 recherchistes, téléphoner à Toyota World, parce que rendu là, c'est pas Toyota Grande-Bretagne, j'imagine, pour dire, ben on va prendre un Hilux et on va tenter de le démolir.
Je pense que c'est un modèle d'occasion, déjà c'est assez déglingué.
Oui. Mais souvent, c'est ça, ils avaient pas le choix d'acheter les véhicules parce que ça n'avait pas
de sens. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient les démolir au final.
Et on a vu quand même certaines histoires d'horreur entourant Jeremy Clarkson, comme quoi il était ingérable, comme quoi...
Ben, quand il est parti, ils l'ont foutu à la porte, il a frappé, je pense, producteur.
Oui, c'était quand même je pense qu'on peut appeler ça un sale caractère.
Ça doit être un bon égo quand même, Clarkson. Oui. Mais tu vois, il y a quand même ces deux complices qui ont suivi, sont allés chez Amazon finalement pour créer The Grand Tour, qui n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. J'ai jamais embarqué dans... Mais moi, ce que j'aimais le plus, puis tu sais, j'ai toujours eu un intérêt pour les véhicules un peu ordinaires. Oui, de les voir faire leur tour de piste.
Avec le stick.
Avec le stick, puis là, de placer le chrono sur leur tableau écrit à la main.
C'était génial.
Mais quand les épisodes où on leur disait « T'as 25 000 $ et tu dois acheter le supercar le moins cher et parcourir tel pays d'Europe », c'était exceptionnel.
Bon. Manny est allé aux États-Unis. Il avait écrit des trucs un peu homosexuels et il se faisait envoyer chier. C'était comme dans la Bible Belt aux États-Unis. C'était, oh my God, c'était tellement des beaux reportages.
Ils avaient acheté un vieux Dodge Ram.
Une Camaro blanche, si ma mémoire est bonne.
Ces expéditions-là à l'international où on achetait un véhicule puis on tentait d'arriver à destination tout simplement, c'était quelque chose.
C'est l'émission qui m'a le plus marqué. J'écoutais ça ado, j'avais les DVD. Ouais. Là. Puis vraiment, c'est... Puis à ce jour, je verrais Jeremy Clarkson, j'aurais les genoux qui
Je serais un peu ému, je pense.
Ah ouais. Même les deux autres.
Comment il s'appelle?
Non.
Mais en fait, moi, je m'identifiais quand même un peu à James May. Tu sais, pas un peu bon.
Vieillot,
un peu plus en retrait. Ses chemises à fleurs, j'étais fan.
Ouais.
Tu sais, qu'il s'exprimait toujours plus posé que les
fan de Rolls-Royce, tu sais, plus luxe que sport. Tout le monde, il riait tout le temps de lui parce qu'il était plus lent que les deux autres. Moi, tu vois, j'aimais beaucoup Hammond.
Oui, un petit nerveux.
Qui a failli se tuer à deux reprises, d'ailleurs. Dont une fois avec la Rimac.
Ouais. Ça aussi, c'était
des pilotes, les gars, là.
C'était des pilotes et ils avaient accès à des véhicules auxquels personne d'autre ne pouvait même imaginer avoir accès. Là. Conduire une Rimac, ça n'arrive pas dans ta vie, là. Mais eux, ça arrivait.
J'aimerais souligner, Germain, qu'on est passé de Bumbo à Top Gear et on y a vu que du feu.
Oui, c'était une transition, ma foi, naturelle.
J'espère que vous avez apprécié.
Attends. J'ai dit qu'on allait revenir sur Hugo Saint-Cyr et sa Camaro et on n'y est pas revenu parce que la transition ne s'est pas faite. Et en fait, dans une autre émission automobile qui joue toujours, d'ailleurs, on a parlé de vieilles émissions, mais Transmission Impossible, diffusée à Historia, joue toujours. Il y a du bon, il y a du moins bon dans cette émission-là. Moi, j'apprécie particulièrement le travail de Michel Poulain de Arte Restauration, qui est à Beaumont et qui restaure des véhicules de niveau concours, qui des véhicules vendus souvent après ça dans des encans américains, des véhicules exceptionnels. Et il y a... Dans cette émission-là, on a ramené à la vie la fameuse Camaro d'Hugo Saint-Cyr.
Après son décès?
Oui, après son décès. Donc, sa mère a cédé la voiture et un des participants de l'émission a fait restaurer la voiture et elle existe toujours pour garder en vie sa voiture qu'il chérit 7 ans.
Comme quoi, il y a un côté très passionnel, Germain, à l'automobile, et je crois que c'est pour ça que ça nous a marqué à ce point-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et Germain Goyer à l'animation.
Merci à Philippe Séguin pour la réalisation, le montage et la musique.
C'était une production Cube Radio.
On invitera Jeremy Clarkson pour la prochaine fois.
Ah, c'est une bonne idée.